La grande question qui se pose aujourd'hui, et qui est posée par ce type de mouvement, les indignés en Espagne, ce qui se passe aujourd'hui en France, contre la loi El Khomri, ce sont les mêmes phénomènes. C'est-à-dire l'accès des jeunes diplômés au monde du travail. Au-delà de la loi, de ce qu'elle contient, c'est la question anthropologique, qu'est-ce que je suis dans cette société? Et qu'est-ce qu'on me propose? Ça, bon, c'est valable pour un ouvrier, c'est valable pour un jeune issu des classes populaires, c'est valable pour un jeune surdiplômé. C'est une vraie question existentielle qui se pose. Puis la deuxième question, ce qui est vraiment très important, c'est l'accès aux responsabilités politiques et la fermeture de l'élite politique, la fermeture sur elle-même. Il faut vraiment analyser cette question structurelle.
Si c'est structurel, pourquoi est-ce que ça explose finalement, entre guillemets, ou au moins on a l'impression que ça explose maintenant?
Il y a des choix politiques qui sont faits et qui déclenchent ce mouvement souterrain. Il est évident que la loi El Khomri, dans le timing dans lequel elle est posée, et la façon dont elle est présentée, au-delà du contenu, ne peut être qu'un facteur déclencheur d'une forme de saturation sociale. C'est-à-dire une saturation sociale qui ne naît pas aujourd'hui, que ce soit dans les quartiers difficiles, il ne faut pas oublier les émeutes de 2005. A-t-on fait le débriefing, l'apprentissage de ces événements? Non. Est-ce qu'on a fait l'apprentissage des événements du CIP? Non. Est-ce qu'on a fait l'apprentissage de la crise de l'université? Non. Donc les vrais problèmes structurels, c'est la formation des jeunes et l'accès au monde du pouvoir, que ce soit pour les femmes, les jeunes diplômés. Et la loi El Khomri, me semble-t-il, comme ce fut le cas en Espagne, avec le même type de loi qui avait été proposé en 2011, c'est des lois qui précarisaient le monde du travail. Ce sont des lois qui déclenchent effectivement une forme de mobilisation. Parce que trop, c'est trop. Et après, il y a une certaine incertitude. Pourquoi là? En général, ce sont des choses qui se passent dans un temps électoral qui va se durcir. Alors qu'on sent qu'il y a une pré-campagne et qu'il y a effectivement un certain nombre d'organisations syndicales, politiques, mais aussi nouvelles, profitent de l'opportunité. Pour autant, la question est structurelle. On n'est plus dans des luttes syndicales, on n'est plus dans des luttes de pouvoir d'achat, on est dans des luttes existentielles.
Des luttes existentielles qui semblent donc échapper aux responsables syndicaux. Comment les mouvements sociaux ont-ils évolué ces dernières années?
La structure des manifestations, elle a changé évidemment. Avant, on avait des choses très organisées, notamment des services d'ordre et en face que maintiennent de l'ordre des policiers. Là, effectivement, il y a des formes de confrontation qui sont très nouvelles, toutes proportions gardées. C'est 50, 100 bonhommes cagoulés. Ces groupes, ils amènent de l'incertitude, ils débordent les services d'ordre internes des syndicats, ils vont s'affronter directement aux forces de l'ordre qui, elles, en retour, sont assez peu adaptées à leur travail, me semble-t-il, à ces nouvelles formes d'action. Elles sont surprises, mais c'est normal qu'elles soient surprises, parce que c'est des formes d'intervention tout à fait nouvelles, c'est des one-shot, on arrive, on crame un distributeur bancaire. On isole les... Bon, ça, c'est une structure qu'on a vue dans les émeutes de 2005. Les guet-apens, les pièges, c'est-à-dire où quelques agents de police ou des agents du maintien de l'ordre se trouvent attrapés, si vous voulez, par une situation et se trouvent complètement isolés. Et ça, c'est toute une technique policière. C'est des gens qui doivent travailler là-dessus. Il faut que la police et les institutions de l'État aient une réflexion interne. Est-ce que je suis aujourd'hui adapté à la situation? Et la police doit dire, bon, mais écoutez, là, on a mal agi ou là, on était en légitime défense. Et porter à la connaissance du public, objectivement, ça s'appelle de l'évaluation. Et ça, nous n'avons pas cette culture en France, on ne sait pas faire ça.
Peut-on pour autant dire que ces mouvements se sont radicalisés?
Radicalisés, non. La violence dans les manifestations, c'est toujours quelque chose qui a existé. Dans les deux camps, on ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas le chiffrer. Dans des contextes comme l'Espagne, dans le cadre des émeutes de Londres, dans les contextes comme la France à 2007, j'ai des images, j'ai des indicateurs, j'ai des arrestations. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Des images retirées de leur contexte qui frappent les esprits avec la diffusion et l'esthétisation de la violence par les réseaux sociaux. Des vidéos qui sont complètement décontextualisées. Pour autant, est-ce qu'on peut parler de violence policière et de violence contre la police plus grave qu'avant ou moins grave? Non, parce qu'on ne sait pas. Le ministère de l'Intérieur ne donne aucun chiffre. On parle effectivement d'ici et là de cas qui se déroulent dans un contexte très particulier à la marge de manifestations. Et pour autant en face, de combien de personnes parle-t-on à Sivens, dans les ZAD à Notre-Dame à côté de Nantes, ou dans les cadres des manifestations aujourd'hui? On nous parle d'anarcho-libertaire. L'anarcho-libertaire, c'est 200 personnes. C'est pas avec 200 personnes que je vais catégoriser une action sociale. Ces questions de violence, elles doivent rester dans le domaine de la politique policière.